Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous de musique liturgique. Bienvenue sur Point d'orgue, vous êtes ici chez vous. Et à tous les nouveaux auditeurs qui me rejoignent dans cette aventure de Point d'orgue, vous ne me connaissez peut-être pas, je m'appelle Jean Persil. Je suis chef de chœur et directeur artistique de la Schola Cantorum de la Basilique Saint-Sernin à Toulouse, dans cette merveilleuse basilique romane, avec ses chœurs et cet orgue si extraordinaire d'Aristide Cavaillé-Coll. Et j'ai eu l'idée de mettre sur les ondes ma vision. Donc parfois je vais dire ce que je pense, et c'est peut-être pour ça aussi que vous pouvez par retour aussi de radio de cette émission me dire ce que vous en avez pensé. Moi en tout cas je vous dis ce que je pense de certains morceaux, de certaines conceptions de la musique liturgique, et j'ai à cœur souvent de vous faire découvrir certaines œuvres. Parfois vous les connaissez, parfois vous les connaissez moins, mais en tout cas de vous faire redécouvrir les œuvres avec une oreille, une écoute de musicien. Et c'est cela que j'essaie de vous transmettre émission après émission. Et je suis très heureux de vous retrouver pour cette rentrée, tant il est vrai que les dernières semaines, les plus assidus d'entre vous l'ont certainement remarqué, il s'agissait de rediffusion de mes émissions de l'année dernière. Et donc voilà la première de mes éditions qui commence cette fois-ci. Et alors pour une première, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire, puisque finalement pour ceux qui me suivent, ça fait 4 ans maintenant que je fais cette émission, eh bien on a peut-être un petit peu tout balayé du grégorien à nos jours. Et alors je me suis dit, ben, bis repetita placent, les choses dites deux fois plaisent, eh bien peut-être qu'on peut repartir dans le temps. Vous savez que j'aime bien faire des études comparatives entre différents temps, parfois prendre une même œuvre et l'analyser, par exemple d'une façon du 19e et du 20e siècle, et ensuite de voir ce que ça donne. Mais auparavant, je vais vous parler de ma démarche, parce que c'est ça qui peut peut-être vous laisser un petit peu interdit au départ. Il s'agit tout simplement de vous faire découvrir les splendeurs de la musique sacrée dans leur contexte, c'est-à-dire ce pourquoi elles ont été conçues, écrites et également interprétées. Parce que si vous faites attention aujourd'hui dans les églises, eh bien vous n'avez plus tellement ce répertoire-là. Ça s'explique par une tradition historique, notamment il y a eu avant la Révolution française, après la Révolution 16 et après, bien entendu, Vatican II. Là, je parle de ce qui se passe typiquement en France, parce que, bien entendu, chez nos amis protestants, en langue vernaculaire, le répertoire a été bien différent. On aura sûrement l'occasion d'en reparler à d'autres reprises. Mais donc, tout ça nous montre qu'aujourd'hui, nous avons un petit peu perdu ce répertoire au profit d'un nouveau répertoire. Et moi, je me dis, c'est peut-être dommage de ne pas l'entendre dans les circonstances dans lesquelles ça a été composé. Parce que dites-vous bien qu'elles disent beaucoup de la foi des gens de l'époque. Et aujourd'hui, des gens qui l'interprètent, ça dit également beaucoup de ce qu'ils veulent vous transmettre. Et je pense que ce ne sont pas des pièces qui doivent être dans des musées. Ce ne sont pas des pièces qui sont dans la naphtaline. Au contraire, ce sont des choses très porteurs de sens, très porteurs de... de ce que l'Esprit Saint a été fécond à une période et a inspiré des gens qui ont été assez perméables à cet Esprit Saint pour pouvoir rendre gloire à Dieu ou au contraire montrer les choses les plus tragiques de la vie du Christ. C'est ça qui est fort dans la musique, c'est que c'est l'art de l'ineffable et donc naturellement il y a des choses qui transparaissent dans la musique mais qui ne peuvent pas transparaître dans d'autres arts, et c'est pour ça que j'ai à cœur de vous faire découvrir ces répertoires. Et alors pour commencer, je me suis dit, commençons un petit peu par le commencement. Alors je triche un petit peu parce que je vais occulter 1500 ans de musique quand même, vous m'en excuserez, avec toute la psalmodie qui s'est transformée en chant grégorien, en plein chant, etc. Et on va débarquer, si j'ose dire, pleinement dans la musique baroque. Ça parle certainement à une grande partie d'entre vous. Et il faut savoir aussi que le baroque, on connaît sans connaître. Alors pourquoi je décide de vous parler du baroque? Tout simplement parce que je vais donner une conférence à la Basilique Saint-Sernin le jeudi 19 à 18h30. Donc ceux d'entre vous qui sont dans le sud, eh bien vous pouvez m'y rejoindre avec plaisir. Je parlerai de la musique au 18e siècle à la Basilique Saint-Sernin. Bon, je vais réfléchir par entonnoir, donc on parlera de toute la musique baroque française, musique dite baroque, mais dite également classique, ça, vous verrez, c'est presque une querelle de musicologues, qui est tout à fait passionnante d'ailleurs, et donc je vous invite à me retrouver à la Basilique Saint-Sernin le 19 septembre à 18h30, c'est gratuit, et vous serez les bienvenus, et vous entendrez même des œuvres de cette période-là. Donc, puisque je me suis dit que j'avais cette conférence à préparer, je me suis remis en tête beaucoup de choses sur la période baroque, et je voulais les partager avec vous, tant il est vrai que c'est une période absolument foisonnante d'un point de vue musical, et notamment d'un point de vue de la musique sacrée. Et puisque c'est une nouvelle année et que cette année j'ai de nombreux nouveaux auditeurs que je salue, eh bien je voulais faire quelque chose d'inédit et pour la première fois en 4 ans, je vais mettre un morceau qui n'est pas de la musique sacrée. Attention toutefois, ça a un but et vous allez très vite comprendre pourquoi je me permets cette petite entorse. En effet, quand on parle de musique baroque, alors je ne vais pas pouvoir vous faire toute la genèse de la période baroque, mais il faut que vous compreniez certaines choses qui sont très simples pour comprendre l'esprit de la musique baroque qui transparaît même dans les œuvres sacrées. Il faut savoir que, naturellement, à l'époque, la musique était très liée au pouvoir, que ce soit le pouvoir royal ou le pouvoir de l'Église. Et c'est pour ça que je vais faire ce petit comparatif. Je vais comparer un opéra avec une œuvre sacrée. Deux œuvres qui n'ont rien à voir, mais qui, finalement, dans la façon dont la musique fait transparaître les choses, ont plus en commun qu'il n'y paraît. Pourquoi est-ce que je vous parle d'opéra? Tout simplement parce que la période baroque est une période extraordinaire, parce que c'est la période de la représentation. C'est vrai qu'on se demande tous pourquoi finalement Jean-Sébastien Bach n'a pas écrit d'opéra, par exemple. Alors certains disent que ses passions sont des formes d'opéra, et il y a un peu de cela. En vérité, la période baroque est une période qui est l'art du mouvement, comme dit Philippe Bossan dans son ouvrage Vous avez dit baroque, que je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas. Il y a cet art du mouvement et il y a également un art rhétorique. Tous les musicologues le reconnaissent, de Philippe Bossan que je viens de vous citer à Nicolas Arnoncourt, qui lui aussi met très en avant le côté de la diction et non seulement des chanteurs, mais également des instrumentistes même. Il est vrai que dans la période baroque, vous avez des instruments qui sont proprement rattachés à cette période et qui nécessitent un doigté particulier, une articulation particulière, une façon de le faire résonner particulière. Tout cela dans une acoustique particulière. Et bien entendu, c'est cela qui est la recherche première. Et alors, donc, on a cet art de la représentation, du discours donc, et du mouvement. Et bien entendu, qu'est-ce qui dit mieux dans cette musique, le mouvement et la rhétorique, que l'opéra? Et naturellement, c'est pour ça que la période baroque va être la période par excellence de l'opéra. Bien entendu, après, il y aura le 19e siècle avec les grands compositeurs que l'on connaît, mais la naissance de l'opéra, c'est le baroque. Avec Monteverdi, enfin les musicologues disent que c'est Monteverdi, en vérité il y en a eu d'autres un petit peu avant, mais il y a cette espèce de mise en scène extraordinaire. Et la mise en scène, bien entendu, c'est la mise en scène également du pouvoir. Et quand on parle du pouvoir du roi, on parle également aussi du pouvoir de Dieu, tant il est vrai qu'à cette époque-là, les monarchies sont souvent de droit divin. Et alors là, je vais vous parler d'un opéra que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Les Indes Galantes, de Jean-Philippe Rameau. Jean-Philippe Rameau, immense compositeur classique, slash baroque, qui a été un des plus grands théoriciens de l'harmonie de son époque et de son temps, et encore aujourd'hui fait partie des références. Et je vais vous passer l'une des danses. C'est la danse des sauvages, et vous allez comprendre que dans le discours et dans le mouvement, c'est ça que j'essaie de vous apporter, il y a cette espèce de liberté inhérente au baroque. Alors bien entendu, en France, c'est d'autant plus frappant que c'est l'opéra a été un petit peu moins prégnant qu'en Italie. La musique accompagnait surtout les danses. D'ailleurs, Louis XIV était un excellent danseur et il aimait beaucoup qu'on l'accompagne. Il était d'ailleurs suivi pour cela par un orchestre dédié à ces danses, il faut le savoir, qui était différent de l'orchestre de la chapelle. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait un véritable foisonnement autour de la danse. Et c'est là où je veux qu'on se retrouve tous ensemble, c'est autour de la musique et du mouvement. Découvrez donc cette danse des sauvages, des Indes Galantes de Jean-Philippe Rameau.
Thank you.
On imagine sans peine avec cette instrumentation la danse, la joie, les virevoltements, toute cette soie, toutes ces perruques, ces poudres, ces fanfares qui animaient la cour du Roi Soleil et qui pouvaient véritablement apporter à cette musique toute l'extravagance nécessaire pour la représentation du pouvoir royal. Alors bien entendu, ça n'a pas été fait que à la gloire du roi, c'est bien entendu un hymne à l'amour et un hymne à la musique, tant il est vrai que Jean-Philippe Rameau est un compositeur génial qui a également travaillé pour son art. C'est évident. Mais là, vous entendez bien cette dimension du mouvement. Alors, en plus, dans cette version que je vous ai choisie, il y a des instruments qu'on entend. Vous avez des roulements de tambour. Alors, c'est également dans la mise en scène, la période du baroque où on mettait en place ce qu'on appelait les orages à l'orchestre, qui apparaissaient avec des grondements, des effets scéniques incroyables et qui permettaient ce côté très scénographique que l'on retrouve là dans la musique. Bien entendu, ensuite, vous trouverez l'orage bien plus tard dans l'orgue, qui est l'écrasement de toutes les notes graves et qui là aussi fait un effet tout à fait saisissant. Mais véritablement, l'orage dans la période baroque fait partie des éléments, on va dire, un peu superfétatoires, mais si constitutifs de cette période qu'il est intéressant de l'entendre là, dans cette version. Et vous avez également tous les objets percussifs qui donnent ce côté dansant et mouvant donc. Et c'est pour ça que je voulais vous faire écouter cet opéra et cette musique profane, tout simplement pour non seulement vous mettre dans le bain et accoutumer votre oreille à cette époque-là. Donc vous entendez les violons qui sont joués de façon différente, qui ont un son également très différent, de même que les bois qui ont un son là aussi tout à fait différent. Donc là, vous êtes plongé dans le bain, mais vous êtes également plongé dans la philosophie de la période baroque. Pourquoi ? Parce que vous avez cette joie, ce côté dansant. Alors d'ailleurs, là je me souviens d'un autre immense chef, c'est d'ailleurs celui que nous allons entendre par la suite, John Eliot Gardiner, qui disait que lorsqu'il commençait à regarder son professeur diriger pour la période baroque, en fait il ne regardait même pas ses mains, il regardait ses pieds, tant il est vrai qu'il y a ce côté naturel entre le baroque et la danse. Si je dois à nouveau citer Philippe Bossan, que je vous citais en début d'émission, il disait également cette phrase que je trouve assez juste, le mouvement naturel du baroque, c'est la séduction. C'est-à-dire quelque chose, la séduction c'est bien entendu pas statique, surtout à cette époque-là avec l'amour courtois. Alors certes, il y a un côté très de bienséance, mais d'un autre côté, vous avez des sortes d'envolées. Alors on n'est pas encore dans le lyrisme du 19e siècle, mais il y a quelques emphases tout de même, il y a le côté enjolivé, le côté poudré, je vous le disais aussi, qui est extrêmement important et qui donne du relief non seulement au texte, mais également à l'intonation de la voix. Il est vrai qu'à l'époque, alors c'était pas encore à la période italienne, mais la voix est presque, quand on parle, elle est presque chantée. Il y a un côté très déclamatif, très chanté à cette époque-là. Et c'est cela que l'on ressent bien dans cette musique-là. Et c'est pour ça que je voulais donc vous faire découvrir la musique de Jean-Philippe Rameau. Donc, une présentation du pouvoir royal, je vous le disais, par la représentation, que ce soit par les effets sonores, l'orage par exemple, ou encore tout simplement le mouvement qui vient magnifier, alors par exemple en France c'était la course du soleil, etc. Donc il y a tout ce côté-là que je voulais vous mettre en place. Et il y a le côté de l'art rhétorique, c'était le dernier évidemment, qui là est extrêmement bien conçu chez Jean-Philippe Rameau, avec les intonations vocales et cette façon de chanter dans le baroque qui est assez typique, là aussi avec une importance primordiale du haut texte qui est fait sans embâge, avec des voyelles qui sont beaucoup plus directes, beaucoup plus marquantes, et c'est cela qui donne au baroque toute cette dimension rhétorique aussi. Et naturellement, la mise en place du pouvoir royal permettait, le pendant, c'était le pouvoir religieux. Bien entendu, le pape et des grands princes et des grands cardinaux, mais protéger des artistes pour qu'ils puissent mettre en œuvre de la même manière la musique au service de Dieu. Et alors là, on va se pencher sur un autre immense musicien. Il s'agit de George Frideric Handel, alors qui lui, initialement, est allemand et qui va immigrer et faire toute sa carrière à Londres. Alors lui aussi, il avait une telle connaissance de la musique de son époque qu'il est allé prendre un petit peu partout. Il prenait les musiciens en Italie, parce que c'était les meilleurs, il prenait les Français pour la danse, et il arrivait à composer plusieurs académies, je crois que de mémoire, il en avait eu trois ou quatre, il me semble que c'était trois, donc il les a recréés au gré des difficultés, parce que c'est vrai qu'à Londres, on essayait de lui mettre en place l'opéra italien, et lui, il faisait de la résistance, il essayait de mettre en place ses propres opéras, et Dieu sait qu'il a réussi à faire de la très très grande musique. Ce que je vais vous faire découvrir maintenant, là aussi songer au mouvement, songer à la joie, c'est l'introduction de son Dixit Dominus par John Eliot Gardiner. Thank you. c'est là que la comparaison avec Jean-Philippe Rameau tient tout son sens. Vous sentez toute cette espèce de gémilité entre ces deux types de musique. Bien entendu, mille choses les séparent, mais le mouvement, la rhétorique, la façon de conduire la musique est bien entendu la même. Et c'est si typique, si symptomatique de cette période baroque sublime pour la musique sacrée, qu'effectivement, il convient de s'arrêter sur cette définition-là du baroque, l'art du mouvement, l'art de la séduction et cet art de la rhétorique. Donc vous avez entendu le Dixit Dominus de Handel, qui est une musique un petit peu bâtarde, il faut bien le dire, dans la mesure où Handel l'a écrite pendant qu'il faisait une tournée de plusieurs années, d'ailleurs, en Italie, et donc il a écrit ça, notamment pour ses protecteurs romains, dont un cardinal, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce sont eux qui avaient de l'argent et qui permettaient de pouvoir produire ce genre de musique-là. Et bien entendu, ça fait partie de ces très grandes œuvres qui sont aujourd'hui perçues comme peut-être de la musique de musée. Et encore une fois, non, parce que quand on voit les paroles, alors il s'agit du Dixit Dominus, c'est le début du psaume 109, qui veut dire, là aussi, qui est libre à tellement d'interprétations. Parole du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et mes ennemis seront le marchepied de ton trône. Donc il y a cette espèce de dimension presque guerrière, mais en même temps de rendre gloire au Seigneur. Après, il y a toute la suite du psaume qui se continue, qui est là, qui est donnée par un mouvement, par une étincelle jaillissante, si extraordinaire, qu'il convient là aussi de l'accepter dans sa dimension totalement sacrée. C'est une sorte de torrent d'affliction que vous entendrez par la suite, si vous avez la curiosité d'écouter le morceau dans son entier, parce que là aussi, je peux vous assurer que le reste est tout aussi splendide. C'est une œuvre qui est assez conséquente, hein, d'une quarantaine de minutes, mais qui est d'une grande richesse. Il est composé de chœurs, d'arias, également de fractions avec l'orchestre seul. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Et vous retrouvez toutes ces parties que vous retrouvez finalement dans l'opéra, c'est-à-dire des récitatifs, avec quelqu'un qui raconte, qui déroule la vie soit du Christ, ou là en l'occurrence le psaume, ou alors au contraire des chœurs qui là visent à magnifier, etc. Il y a également pas mal de jeux avec le tempo qui souvent dans la période baroque s'élargit quand il est question des plus grandeurs, par exemple de Dieu, etc. Ce qui fait que là aussi nous avons quelques petites pépites à remarquer dans cette extraordinaire musique baroque. Voilà pour aujourd'hui, c'est avec cette musique joyeuse que je voulais faire ma rentrée avec vous, et je vous rappelle pourquoi j'ai décidé de vous parler de la musique baroque. La conférence que je donnerai le 19 septembre à la Basilique Saint-Sernin à 18h30 sur la musique au XVIIIe siècle à la Basilique Saint-Sernin et dans le sud de la France. Là aussi, de très belles choses à découvrir. D'ici là, portez-vous bien. Je remercie Mathieu Duboc qui m'a aidé à réaliser cette émission. Et la semaine prochaine, nous allons continuer à voguer dans ces eaux si tumultueuses et si incroyables de la musique baroque. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt sur Point d'Orgue.